Je déclare que la terre est vide.
Compliment, Cassobon. Dans votre innocence, vous avez eu une intuition exacte. La vraie, l'unique obsession de Hitler, c'était les courants souterrains. Hitler adhérait à la théorie de la terre creuse. La Allweltlehre. Les enfants, moi je m'en vais, j'ai une gastrite, disait Diotalevi. Attends, c'est maintenant qu'arrive le meilleur. La terre est vide. Nous n'habitons pas dehors, sur la croûte externe, convexe, mais dedans, dans la surface concave interne. Ce que nous croyons, le ciel, est une masse de gaz avec des zones de lumière brillantes. Un gaz qui remplit l'intérieur du globe. Toutes les mesures astronomiques doivent être revues. Le ciel n'est pas infini, il est circonscrit. Le soleil, si même il existe, n'est pas plus grand que ce qu'il apparaît. Une graine de courge séchée dans 30 cm de diamètre au centre de la Terre, ce que les Grecs avaient déjà soupçonné. Ça, c'est de ton invention, dit avec lassitude Diotalevi. Ça, c'est de mon invention, mais pas du tout. Une idée déjà produite au début du 19e siècle, en Amérique par un certain Simne. Puis, à la fin du siècle, un autre Américain la reprend à son compte, un certain Tide, qui s'appuie sur des expérimentations alchimiques et sur la lecture d'Isaïe. Et après la Première Guerre mondiale, la théorie est perfectionnée par un Allemand, son nom m'échappe, lequel va jusqu'à fonder le mouvement de la Allweltlehre, qui est, comme dit le mot lui-même, la théorie de la Terre vide. Or, Hitler et les siens trouvent que la théorie de la Terre vide correspond exactement à leurs principes, tant et si bien, dit-on, qu'ils ratent certains tirs avec leur V1, précisément parce qu'ils calculent la trajectoire en partant de l'hypothèse d'une surface concave et non pas convexe. Hitler a désormais la conviction que le roi du monde, c'est lui, et que l'état-major nazi, ce sont les supérieurs inconnus. Et où habite le roi du monde? Dedans, dessous, pas dehors. C'est à partir de cette hypothèse que Hitler décide de renverser complètement l'ordre des recherches, la conception de la carte finale, la façon d'interpréter le pendule. Il faut réunir les 6 groupes et refaire tous les calculs du début. Pensez à la logique de la conquête hitlérienne, première revendication, Danzig, pour avoir en son pouvoir les lieux classiques du groupe teutonique. Puis, la conquête de Paris. Il place le pendule et la tour Eiffel sous son contrôle, contacte les groupes synarchiques et les introduit dans le gouvernement de Vichy. Après quoi, il s'assure de la neutralité et en fait de la complicité du groupe portugais. 4e objectif, évidemment, l'Angleterre. Mais nous savons que ça n'est pas facile. En attendant, avec les campagnes d'Afrique, il cherche à atteindre la Palestine. Mais dans ce cas aussi, il fait chou blanc. Alors, il vise la soumission des territoires pauliciens en envahissant les Balkans et la Russie. Lorsqu'il présume avoir entre les mains les 4/6 du plan, il envoie Hesse en mission secrète en Angleterre pour proposer une alliance. Comme les Baconiens ne marchent pas, il a une intuition. Ceux qui détiennent la partie la plus importante du secret ne peuvent être que les ennemis de toujours, les Juifs. Et il n'est pas nécessaire d'aller les chercher à Jérusalem, où peu d'entre eux sont restés. Le fragment de message du groupe hiérosolimitain ne se trouve pas du tout en Palestine, mais en possession de quelques groupes de la diaspora. Et voilà que s'explique l'Holocauste. Dans quel sens? Mais réfléchissez un instant, imaginez que vous voulez commettre un génocide. Je t'en prie, dit Diotalevi. Maintenant on exagère, j'ai mal à l'estomac, je m'en vais. Attends, bon Dieu, quand les Templiers tripaient les Sarrasins, ça t'amusait, parce qu'il était passé tellement de temps. Et à présent tu fais du moralisme, le petit intello. Nous sommes en train de chercher à refaire l'histoire. Rien ne doit nous faire peur. Nous le laissâmes poursuivre, subjugué par son énergie. Ce qui frappe dans le génocide des Juifs, c'est la longueur des procédés. D'abord, on les garde dans des camps où ils sont affamés. Puis, on les dépouille de tous leurs vêtements. Une fois nus, les douches. Ensuite, la conservation méticuleuse de montagnes de cadavres. Et on archive les vêtements, on recense les biens personnels. Ça n'était pas un procédé rationnel, il s'agissait seulement de tuer. Il devenait rationnel s'il s'était agi de chercher un message que quelqu'un d'entre ces millions de personnes, le représentant hiérosolimitain des 36 invisibles, conservait, dans les replis de ses habits, dans sa bouche, tatoué sur sa peau. Seul le plan explique l'inexplicable bureaucratie du génocide. Hitler cherchait sur les Juifs la suggestion, l'idée qui lui permettrait de déterminer grâce au pendule le point exact où, sous la voûte concave que la terre creuse, se pourvoit à elle-même, s'entrecroisent les courants souterrains qui, à ce point-là, remarquez la perfection de la conception, s'identifient avec les courants célestes. Raison pourquoi la théorie de la terre creuse matérialise, pour ainsi dire, l'intuition hermétique millénaire. Ce qui se trouve dessous est égal à ce qui se trouve dessus. Le pôle mystique coïncide avec le cœur de la terre. Le dessein secret des astres n'est rien d'autre que le dessein secret des souterrains d'Agartha. Il n'y a plus de différence entre ciel et enfer, et le Graal, le lapis exilis, est le lapis ex coelis, dans le sens où c'est la pierre philosophale qui naît comme enveloppement, terme, limite, utérus ctonien des ciels. Et quand Hitler aura identifié ce point au centre creux de la terre, qui est le centre parfait du ciel, il sera le maître du monde, dont il est le roi par droit de race. Et voilà pourquoi, jusqu'au dernier moment de l'abîme de son bunker, il pense pouvoir encore déterminer le pôle mystique. « Ça suffit !» avait dit Diotel Lévy. « À présent, je me sens vraiment mal. Ça me fait mal. Il va vraiment mal. Ça n'est pas une polémique idéologique, dis-je. » Belbo ne parut comprendre qu'alors. Il se leva, empressé, alla soutenir son ami qui s'appuyait à la table et semblait sur le point de s'évanouir. « Excuse-moi, mon vieux, je me laissais emporter... Ce n'est pas parce que j'ai raconté ça que tu te sens mal, vrai? Il y a 20 ans que nous plaisantons tous les deux, non? Mais tu vas vraiment mal? C'est peut-être bien une gastrite, tu sais, dans un cas pareil, il suffit d'un comprimé de Malox et une bouillotte. Allons, je t'accompagne chez toi. Mais après, il vaudrait mieux que tu appelles un médecin. Mieux vaut que tu aies une visite de contrôle. » Diotel Lévy dit qu'il pouvait rentrer chez lui tout seul, en taxi, qu'il n'était pas encore moribond. Il fallait qu'il s'allonge. Il appellerait tout de suite un médecin, promis. Et que ce n'était pas l'histoire de Belbo qui l'avait secoué. Il allait mal depuis la veille au soir. Belbo parut soulagé et l'accompagna jusqu'au taxi. Il revint soucieux. En y repensant maintenant, depuis quelques semaines, ce garçon a une sale mine. Il a des cernes. Mais grand Dieu, moi je devrais être mort de cirrhose depuis 10 ans. Et je suis là. Et lui, qui vit comme un ascète, il a une gastrite et peut-être pire encore. Selon moi, c'est un ulcère. Ah, au diable, le plan! Nous menons tous une vie de fou. Mais moi, je dis qu'avec un comprimé de Malox, ça lui passe, dis-je. C'est bien ce que je dis, mais s'il se met une bouillotte, c'est mieux. Espérons qu'il sera raisonnable.